Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Tristan Gratalon. S'agit-il d'un simple problème de mise à jour ? Toujours est-il qu'on ne trouve pas trace aujourd'hui sur le site internet de l'ONU de la semaine annuelle du désarmement. Sa célébration est pourtant censée avoir lieu chaque année, et ce depuis 1978, autour du 24 octobre, au moment de la date anniversaire de la Fondation des Nations Unies. Mais le compteur s'arrête en 2013. Alors est-ce à dire que la question du désarmement n'est plus d'actualité ? À regarder la carte des conflits pour cette année 2014, on est tenté de répondre qu'en effet, voilà un sujet qui paraît un peu décalé. Comme le note l'Institute for Economics and Peace, un think tank qui publie chaque année un indice global de la paix dans le monde, la conflictualité n'a jamais été aussi forte depuis 2008. Irak, Syrie, Centrafrique, Ukraine, mer de Chine. La liste est longue de ces guerres effectives ou larvées. Toujours selon cette même organisation, il n'y aurait guère que 11 pays sur la planète à ne pas être impliqués dans un conflit. Alors voilà pour la vision pessimiste. Pourtant, d'ici la fin de l'année, un important traité participant du désarmement global va entrer en vigueur, le traité sur le commerce des armes. Signé en avril 2013, il n'attendait plus que sa ratification par un nombre suffisant d'États, à savoir une cinquantaine, pour entrer en vigueur. C'est chose faite depuis le mois dernier. Alors voilà pour l'approche plus optimiste. Alors qui joue encore le jeu du désarmement ? C'est notre sujet du jour. Les trois spécialistes de cette question pour en discuter. Yannick Kehaut, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant indépendant, chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité qui est basé à Bruxelles. L'objectif du GRIP, là aussi je me suis référé à son site internet, c'est de travailler en faveur de la prévention des conflits, du désarmement et de l'amélioration de la maîtrise des armements. Pour discuter avec vous, Étienne de Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste donc des questions de défense, vous êtes le directeur du Centre d'études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Notre troisième invité, Camille Grand, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la FRS, Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez travaillé autrefois au ministère des Affaires étrangères sur la question du désarmement et vous êtes depuis quelques mois, me semble-t-il, membre du conseil consultatif du désarmement auprès du secrétaire général de l'ONU. D'ailleurs, alors peut-être puisque vous êtes proche des Nations Unies, cette semaine du désarmement qu'on n'a pas réussi à trouver sur le site de l'ONU.
On est en plein mois du désarmement. C'est la réunion en fait de la première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies qui traditionnellement traite de ces questions. Donc toute la machinerie du désarmement des Nations Unies s'est déplacée de Genève à New York pour négocier toute une multiplicité de résolutions et de textes qui n'ont pas forcément un très grand impact, mais qui mobilisent beaucoup de diplomates à New York en ce moment. Et donc la semaine du désarmement, c'est peut-être c'est la partie, je dirais, émergée, mais pas tant que ça apparemment, de cette saison du désarmement.
Ah, pas très grand impact et médiatique, ça c'est sûr. Mais justement, peut-être que ce soir, on va un petit peu contribuer à remettre cette question dans l'actualité. Alors, je précise que dans le désarmement, il y a évidemment une partie importante qui est le désarmement nucléaire. On va sans doute en dire un mot ce soir, mais on n'en fera pas l'exclusivité de la discussion, d'autant que nous avions déjà consacré deux émissions sur ce sujet. Je vous renvoie aux émissions du 29 avril 2013 et du 1er avril 2014. Elles sont en lien sur notre site internet. Voilà, vous aurez l'occasion d'examiner de plus près ces questions-là. Alors, le désarmement, quand on a décidé de faire cette émission, on s'est dit, tiens, voilà, au moins un sujet sur lequel ça va être assez simple de travailler et de réfléchir. Et puis, à l'examen, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ne serait-ce que pour définir ce que c'est que le désarmement, Yannick Kehaut. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
Ah, bonne question. Il y a une vision très restrictive du désarmement qui consistera à dire que c'est de renoncer à des capacités militaires existantes qu'on a déjà chez soi, ou de renoncer à acquérir une capacité vraiment très 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 spécifique, en s'entendant avec d'autres pour le faire. Ça peut être une démarche volontaire, ou ça peut être une démarche imposée, comme le désarmement imposé aux perdants de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ça, c'est la manière plutôt très restrictive, et ça touche effectivement, vous en avez parlé, beaucoup, on aura entendu parler des accords START, New START récemment. Un désarmement unilatéral dans le nucléaire, c'est par exemple la décision de, non pas de se passer d'armes nucléaires, mais de réduire le seuil d'armes nucléaires à à 300, décision prise par Nicolas Sarkozy en 2008. Ça, ce sont des initiatives de désarmement stricto sensu. Après, on peut élargir la famille désarmement. Ça se fait beaucoup dans un cadre international. Je pense que Camille Grand pourra en dire un peu plus. Et rentrer, en fait, inclure là-dedans tout ce qui relève de la maîtrise des armements, des incitatifs à partager de l'information ou à obtenir certains comportements plus éthiques en matière de commerce des armements.
Étienne de Durand, quand par exemple le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian détaille la semaine dernière la répartition des 7500 suppressions de postes dans la Défense française pour l'année prochaine, est-ce que là, c'est du désarmement ?
Non, absolument pas. Là, ça fait partie des mesures budgétaires. Si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer trois grands sens. Vous avez tout d'abord, c'est là l'origine historique en fait du désarmement, la volonté de lutter contre la diffusion de certains types d'armes jugées, des armes jugées particulièrement inhumaines. Ça commence avec un peu avant en fait la Première Guerre mondiale, mais en particulier de la foulée de la Première Guerre mondiale. L'exemple le plus récent auquel on peut penser, c'est bien entendu l'interdiction des mines antipersonnelles. Alors, à cet égard, il y a eu en effet des progrès faits, mais personnellement, j'ai tendance à penser que ce sont des progrès en surface qui sont faits pour satisfaire essentiellement les opinions publiques, la pression des ONG. En fait, c'est plutôt la nature des conflits qui a changé. Vous avez un deuxième sujet qui vient d'être abordé, qui est celui des grands équilibres stratégiques. En fait, là, c'est de l'armement, ou en tout cas la maîtrise des armements entre les grandes puissances. Ça concerne exemplairement les armes nucléaires, mais ça pourrait très bien toucher, et ça a touché par exemple la non-militarisation de l'espace. C'est un autre grand sujet aujourd'hui. Et on pourrait imaginer aussi d'avoir des traités sur un certain nombre de capacités dites conventionnelles, mais très importantes. Je pense aux défenses antimissiles, il y en a eu, traité ABM par exemple. Enfin, il y a un troisième sujet qui est un peu différent, qui est celui que vous évoquiez. C'est celui des équilibres militaires, toutes catégories confondues. Et là, ce qu'on doit constater aujourd'hui, c'est qu'en gros, le reste du monde réarme aujourd'hui à une vitesse plus ou moins importante. L'Europe, elle, continue de désarmer, ce qui pose un vrai problème. Donc, ce qui vient de se passer en France, ça obéit purement à une logique budgétaire. On peut absolument pas ça, on peut absolument pas appeler cela du désarmement. Ce n'est pas du désarmement, c'est des réductions de postes. C'est plus facile de faire baisser, malheureusement, les effectifs de la défense que celui de l'éducation nationale.
Alors, on va évoquer évidemment ces équilibres géostratégiques. Camille Grand, le désarmement, c'est un objectif que s'est assigné l'ONU, les Nations Unies. C'est même l'objet d'ailleurs de la première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est dire si c'est un objectif prioritaire. Est-ce que l'objectif, c'est un désarmement à long terme complet et universel? Et est-ce qu'aujourd'hui, tous les types d'armes entrent dans cet objectif du désarmement?
Alors les Nations Unies, en fait, sont très engagées, en tout cas dans leur texte fondateur, sur la question du désarmement. Parce que pour les Nations Unies, au moment de la signature de la charte en 1945, on était encore dans une logique qui était celle de l'entre-deux-guerres, des pactes brillants, Kellogg, des choses comme ça, qui était l'idée que la réduction des armements permettrait mécaniquement de créer la paix. En quelque sorte, c'est la paix par le désarmement, la philosophie qui reste la philosophie assez dominante aux Nations Unies et qui est partagée par un grand nombre de pays qui se font les avocats du désarmement, non seulement nucléaire, mais également conventionnel. En pratique, on se rend compte que cette philosophie qui est respectable en soi se heurte évidemment à beaucoup de réalités. D'abord parce que les grandes puissances sont beaucoup plus attachées à la forme de désarmement, de maintien des équilibres stratégiques et donc ne désarment que quand elles ont la certitude de conserver un certain nombre de capacités critiques. C'est le cas du nucléaire, mais ça peut être le cas pour des armes conventionnelles très modernes, par exemple, où on voit qu'aujourd'hui, il y a un débat sur l'avenir des drones. Et il est clair que les pays possesseurs de drones les plus avancés, je vais commencer par les États-Unis, n'ont aucune envie de vouloir réguler ou limiter le nombre de drones déployés par l'armée américaine. Donc on a cette tension permanente entre, je dirais, réalité stratégique et rhétorique du désarmement. Cela dit, pour ne pas sembler trop sombre sur ce tableau, on peut relever que dans le cas des Nations Unies, en particulier dans les phases où les choses se passent bien, les Nations Unies ont su interdire soit des catégories complètes d'armes, c'est le cas pour l'arme chimique ou l'arme biologique, avec une interdiction qui touche maintenant la quasi-totalité des pays du monde, hein, et les exceptions sont très stigmatisées, on l'a vu avec l'emploi d'armes chimiques par la Syrie, faire un certain nombre de progrès. Ce qui est inquiétant dans la période actuelle, c'est qu'après une décennie, notamment entre la fin des années 80 et le début des années 90, et la fin des années 90, où il y a eu des progrès un peu dans tous les domaines, et on a vu des traités d'interdiction, des grandes réductions bilatérales américano-soviétiques, puis américano-russes, des réductions unilatérales de la part d'autres pays, et ainsi de suite, on est plutôt entré depuis une petite dizaine d'années, dans une phase où les choses se compliquent et où on voit même des traités qui ont été des piliers de l'ordre stratégique battus en brèche. Et en Europe, le traité sur les forces conventionnelles en Europe a été suspendu par la Russie. Le traité sur les défenses antimissiles a été suspendu par les États-Unis. Donc on voit les grandes puissances reprendre une forme de liberté face à cette thématique du désarmement.
Est-ce qu'on pourrait parler, Yannick Kéo, de régression dans le domaine du désarmement? Et si oui, est-ce que c'est d'abord lié à l'actualité des conflits? J'évoquais tout à l'heure alors les conflits africains, le Moyen-Orient, la Russie, l'Ukraine, les fortes tensions en mer de Chine. Est-ce que tout ça expliquerait à minima, disons, la suspension dans le processus du désarmement et peut-être à maxima le fait qu'il y ait, comme je disais, une régression?
Oui et non, on a une tendance un peu paradoxale. On a effectivement, c'est une année de conflits, c'est même une décennie de conflits. Depuis 2001, les opérations en Asie, en Afghanistan, pour parler juste celles qui impliquent les armées occidentales, en Afrique, à travers la France. La remise en cause effectivement du traité ABM, du traité CFE, il y a beaucoup de choses qui sont assez pessimistes. Et dans le même temps, on a ce traité sur le commerce des armements qui vise à établir un peu plus de transparence, qui vise à donner un cadre un peu plus... pas restrictif, mais à organiser, disons, le commerce des armements.
Voilà, ce traité qui doit entrer en vigueur à Noël.
À la fin de l'année. Donc on a un peu deux choses, tout et son contraire. Et c'est un peu dommage. C'est vrai que si on est dans une période de tension, et quand on est dans les périodes de crise, notamment la crise ukrainienne, on a tendance à perdre de vue qu'à un moment ou un autre, il va falloir sortir de la crise, il va falloir rétablir un dialogue. Et à ce titre, les discussions sur le désarmement ou des ententes sur comment gérer une situation, notamment dans un cadre européen, et notamment dans le dialogue avec Moscou, les accords de désarmement ont montré quelque chose par le passé, même lorsque ça n'a pas donné les résultats attendus au départ ou espérés au départ.
Et peut-être que le processus de désarmement ne peut pas être un processus linéaire. Et qu'il faut
c'est jamais linéaire. Il y a des succès, des échecs. Le traité sur le commerce des armes vient des échecs antérieurs de l'ONU avec des politiques déclaratoires à une époque qui jamais ne fonctionnaient dans le cadre du registre sur les armes classiques des Nations Unies. Donc il y a une série d'échecs et de succès. Et on essaye de compléter et on saisit les opportunités stratégiques aussi, les moments qui sont opportuns pour le faire. Mais il faut aussi rappeler qu'on désarme généralement entre gens qui ont été ennemis. Donc même en période de crise, il faut se garder en tête qu'à un moment, il va falloir rétablir un dialogue.
Oui, mais est-ce qu'on désarme en période de conflit, Étienne de Durand? Est-ce que c'est la bonne question à se poser en tout cas?
Une fois encore, je crois qu'il faut distinguer la problématique des équilibres entre grandes puissances et la problématique, pour le dire vite, des armes légères. Donc pour répondre à votre question, est-ce que c'est l'actualité qui explique la régression du désarmement? Oui, entre les grandes puissances, très clairement. Très clairement, la Chine aujourd'hui vise à atteindre une forme de parité, au moins de sa région définie au sens large, l'Asie d'ailleurs, c'est très large, n'est-ce pas? Vise à atteindre une forme de parité avec les États-Unis et s'est lancée dans un programme d'armement, c'est même pas du réarmement, un programme d'armement un peu tous azimuts.
Donc c'est quoi? C'est juste du rééquilibrage?
C'est comme ça que les Chinois le présentent. C'est comme ça que les Chinois le présentent. Mais en tout cas, il n'est pas question pour eux d'abandonner les initiatives qu'ils ont menées de tout un tas de domaines. C'est même très difficile d'en parler avec eux. La Russie s'est lancée il y a très, très récemment dans un programme très ambitieux de réarmement, pour le coup, dans le cas de la Russie, de 700 milliards. On ne sait pas s'ils iront jusqu'au bout de ce programme, mais enfin, ils ont quand même commencé.
J'ai vu plus de 44% en 3 ans pour la Russie.
Voilà. Si vous regardez, voilà, le problème, c'est que si vous voulez, pour vous donner un autre chiffre, sur la décennie 2000, le budget de la défense chinois, d'après les estimations du SICPRI, a augmenté de 189%. Pendant ce temps-là, les budgets de la défense européenne augmentaient de 0% pendant la même décennie. Et depuis, ils ont baissé collectivement d'à peu près 7 à 8% à cause de la crise.
En même temps, ils étaient bien plus élevés à la base.
Non, pas forcément. Non, pas. Et puis vous avez énormément de redondance et de duplication au niveau européen. Donc une bonne partie du budget européen sert à payer des infrastructures inutiles, les états-majors qui ne servent à rien, etc. Donc si vous voulez, c'était de l'argent largement gaspillé, en fait. Donc voilà, pour ce qui est des équilibres entre grandes puissances, clairement, aujourd'hui, les émergents émergent, si je puis dire, ou réémergent dans le cas de la Russie. Et donc il y a une volonté de rééquilibrage face aux Occidentaux qui explique les investissements considérables qui sont consentis. Cette problématique doit vraiment être fondamentalement distinguée. La prolifération tous azimuts des armes légères dans un certain nombre de zones du monde, prolifération qui constitue en effet un facteur aggravant des crises. Ceci dit, il faut quand même garder en mémoire qu'un drame comme celui du Rwanda s'est fait essentiellement avec des machettes et des armes extrêmement légères. Autrement dit, il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau de violence qu'on peut constater dans une crise et le niveau d'armement. Voilà, mais en tout cas, ces deux problématiques doivent vraiment être distinguées. Pour ce qui est des grands équilibres, nous ne sommes pas dans une phase propice. Alors on peut espérer ouvrir des dialogues avec les uns ou les autres, mais c'est très difficile parce que ce qu'on visait pendant la guerre froide, c'était essentiellement la transparence à travers ces traités pour déjà faire baisser, si vous voulez, le seuil d'anxiété. par rapport aux préparations adverses, pour, en particulier la peur de l'attaque surprise nucléaire. C'était quand même ce qui a dominé une bonne partie de la guerre froide. Aujourd'hui, on n'est plus du tout de cette logique. Et ce qui caractérise la posture stratégique de pas mal de pays, que ce soit des grandes puissances comme la Chine, en tout cas ça caractérise partiellement la Chine, ou des puissances de deuxième, troisième rang comme l'Iran, c'est l'opacité. C'est-à-dire une volonté justement de ne pas révéler ce qu'ils font, une volonté de ne pas dire sur quel programme ils travaillent, de ne pas dire l'ampleur des investissements qu'ils concentrent sur tel ou tel domaine d'armement.
Camille Grand, sur cette question des grands équilibres, est-ce qu'on assiste donc aujourd'hui à un rééquilibrage qu'on peut effectivement considérer peut-être comme légitime du point de vue de ces puissances émergente, enfin la Chine n'est plus une puissance émergente aujourd'hui, mais enfin, en tout cas la volonté de se hisser au niveau des puissances occidentales, et ça rend compliqué le discours et les initiatives en matière de désarmement.
Alors, de fait, un certain nombre de pays, du fait de leur croissance économique, augmentent mécaniquement leurs dépenses de défense. À l'échelle de l'Asie, c'est à peu près 60% d'augmentation sur la dernière décennie, tous pays confondus. Alors la Chine, c'est plutôt 200%, d'autres c'est plutôt moins, mais globalement il y a un effet qui est, je dirais, l'effet mécanique de la croissance qui permet à ces pays d'accéder à des catégories d'armement plus chères, de dépenser davantage pour s'équiper. Et ça peut paraître légitime, après tout la défense est la première responsabilité de tous les États, quels qu'ils soient. Ayant dit ça, on est quand même, et c'est là que je suis assez pessimiste sur la situation actuelle, l'idée qui prévalait dans les années jusqu'à la fin des années 90, qui était qu'on avait une sorte de processus mécanique qui allait faire prévaloir la réduction des stocks d'armes, la non-prolifération, et qui allait amener, pas forcément vers zéro, mais en tout cas vers une réduction très significative à la fois des dépenses de défense et des stocks d'armement conventionnels, nucléaires et autres, détenus par les grandes puissances, est aujourd'hui massivement battu en brèche. D'abord parce que effectivement il y a un certain nombre de puissances régionales qui sont dans des logiques, pour le coup, de course aux armements, pas simplement de modernisation naturelle et légitime, mais vraiment de course aux armements. La Chine, mais pas seulement. Et d'autre part parce que, s'agissant spécifiquement du théâtre européen, l'attitude de la Russie au cours des quelques dernières années a consisté à, d'une part, suspendre leur participation au traité sur les forces conventionnelles en Europe, qui est un traité en apparence très technique, mais qui était un traité qui, à la fin de la guerre froide, avait posé comme principe qu'une attaque surprise en Europe était impossible par un jeu de réduction des stocks, d'inspection mutuelle, croisée, etc. La Russie a suspendu entièrement sa participation à ce traité en 2008 et du coup s'est mise en quelque sorte en dehors de cet accord de base, ce qui n'est pas sans lien avec les crises géorgiennes puis ukrainiennes, puisque ça a permis notamment ces concentrations de troupes à la frontière de l'Ukraine. Donc on a quelque chose de très direct, un lien très direct. Deuxièmement, aujourd'hui, deuxième traité dans le même esprit, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, le fameux traité qui avait mis fin à la crise des euromissiles, qui avait été le grand débat des années 70 et 80 en Europe, et qui avait interdit le déploiement de missiles nucléaires d'une portée de 500 à 5500 km en Europe, et nous disent les Américains, violé par la Russie à travers des tests d'un certain nombre de systèmes qui sont une violation de ce traité. Alors, on n'est pas encore dans un cas de rupture de ce traité, mais on est dans un cas de débat là-dessus. Donc on est dans quelque chose d'assez profond, qui est que même ces traités qui venaient, je dirais, stabiliser les équilibres stratégiques, sont aujourd'hui mis en cause par un certain nombre d'acteurs qui sont dans des processus de réarmement comme la Russie, ou dans des processus de course aux armements comme la Chine, même si on notera que la Chine ne s'est jamais engagée dans des traités autres que collectifs assez généraux.
Vous avez évoqué, Camille Grand, le terme de course aux armements. Est-ce que c'est un terme qui vous convient, Yannick Eau, pour caractériser l'attitude de certains pays aujourd'hui ?
Certains pays, oui, c'est quand même difficile de ne pas parler de course aux armements en Asie. C'est un peu la situation qui prévaut là-bas. Dans d'autres régions du monde où les budgets sont en forte croissance, comme en Amérique du Sud, ça ne correspond pas du tout, puisque course aux armements suppose des tensions assez fortes entre les États, avec la perspective de devoir en découdre en utilisant la force à un moment ou à un autre. Ce n'est pas du tout la logique qui prévaut dans certaines régions. Là, on n'y est pas du tout. Il y a vraiment un processus de modernisation. Donc, il faut bien faire attention quand on dit, oui, les pays émergents s'arment. Ouais, il y a un processus de modernisation. Il faut voir d'où ils partaient aussi. Est-ce que ça représente une menace? Pas nécessairement. C'est du cas par cas. Puis, si ça représentait une menace, bah, déjà, il faudrait arrêter de leur vendre des armements. Parce que qui vend des armements à ces pays-là? Et beaucoup d'entreprises européennes, incluant des entreprises françaises. Donc ça, c'est une première des choses.
Mais déjà... Juste quand vous dites qu'il faut faire attention, Yannick Ehaus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en prendre prétexte pour que, en Europe, par exemple, ou au niveau des forces de l'OTAN, on décide de réarmer un peu plus massivement pour ne pas se faire rattraper par ces pays-là?
Ça dépend. Ce n'est pas une course de rattrapage ou de ce genre de choses-là. Il y a des partenariats stratégiques qui peuvent être dressés à travers des échanges, enfin des ventes d'armement. Ce n'est pas parce qu'on engage ou on vend des sous-marins au Brésil que le Brésil représente une menace et qu'il faut s'armer avec une nouvelle génération de sous-marins et ainsi de suite. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Par contre, il y a d'autres situations dans le monde où, effectivement, on peut s'inquiéter de la montée en puissance de la Chine. Mais la Chine et la Russie, j'entendais Camille Grand, peuvent aussi s'inquiéter d'un certain nombre de dispositions qui ont été prises par les États-Unis dans les dernières années. J'entendais parler du renoncement de la Russie à la participation au traité CFE. Ben oui, mais ça fait suite aussi à dénonciation du traité ABM, au déploiement en Europe d'un bouclier antimissile. La Russie a vu dans les dernières années l'OTAN intervenir au Kosovo, une intervention très très rapide en Géorgie pour empêcher une invasion. Je ne discute pas de la légitimité, je suis plutôt pour d'ailleurs. Elle a vu aussi les forces américaines, françaises et britanniques intervenir en Libye pour protéger les populations, avec les résultats qu'on voit. Elle a vu aussi une tentation d'intervenir en Syrie. Tout ça, ce sont des alliés ou des pays avec lesquels la Russie entretenait des relations fortes. Et elle a vu aussi une déstabilisation, pas uniquement de l'intérieur, de l'Ukraine dans son précaré. Donc, si on veut établir un discours, il faut aussi se rendre compte que la sécurité, ce n'est pas juste l'autre est une menace. C'est un véritable dialogue, c'est un véritable discours à établir. Et c'est valable pour la Russie, c'est valable pour la Chine, je pense.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Qui joue encore le jeu du désarmement? C'est la question que nous posons ce soir à Yannick Kéo, Camille Grand et Étienne de Durand qui souhaitaient réagir à ce qui vient d'être dit. Ne pas considérer l'autre comme une menace, c'est-à-dire que la France, l'Europe peuvent voir ces pays augmenter leur budget de la défense en restant tout à fait serein, ou bien est-ce que vous considérez-vous qu'il y aurait une urgence à réarmer?
Il y a deux sujets, si vous voulez. Il y a un sujet, on va dire, technologique en tant que tel, et il y a un sujet qui a trait aux équipes de puissance. Je rejoins plutôt, bien sûr, Yannick Ehaus sur le premier, à cette nuance près que si on laisse le Brésil et d'autres pays devenir des pays très avancés en matière d'armement, y compris lorsqu'effectivement on exporte des choses, ça n'arrivera pas tout de suite pour le Brésil. Mais enfin, si on s'engageait de cette voie et que derrière nos propres investissements fléchissaient, il arriverait un moment où par définition on serait surclassé, déclassé puis surclassé. Donc il faut faire attention.
Sauf si c'est nous qui leur vendons les armes.
Non, parce que on leur vend les armes et surtout si on leur vend derrière le savoir-faire, si vous voulez, pas juste les équipements clés en main, mais le savoir-faire, la capacité à les produire pour des pays qui sont en pleine ascension économique, qui ont des taux de croissance plus élevés que les nôtres, ça peut demain nous créer des concurrents et ça peut nous rendre très difficile de rester dans la course technologique. Il y a un deuxième sujet qui est celui spécifiquement des équilibres en Europe. Et là, en revanche, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un certain nombre d'actions occidentales qui ont pu être jugées comme étant agressives par les Russes. Mais quand on regarde les faits, c'est-à-dire qui a déployé quel type d'armement, aujourd'hui, en fait, les Occidentaux n'ont à peu près rien déployé aux frontières de la Russie comme système. Il n'y a aucune capacité, en fait. Il n'y a rien, d'ailleurs, mis à part l'armée polonaise. En gros, de la Baltique jusqu'à la mer Noire, il y a l'armée polonaise et l'armée turque, à peu près rien d'autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de déploiement permanent, ni américain, ni britannique, ni français, etc. Il y a des exercices minuscules de l'état-major. Les Russes, en revanche, eux, ont déployé tout un tas de systèmes défensifs ou offensifs qui leur permettent de verrouiller des zones. Je pense en particulier au système qu'ils ont déployé à Kaliningrad, donc une enclave russe qui verrouille toute une partie de la Baltique et des Pays-Baltes, et d'ailleurs le nord de la Pologne. Donc la Russie, malheureusement, ça se voit à l'occasion de la crise en Ukraine, mais en fait, ça avait commencé depuis déjà 2 ans, un comportement qu'on est obligé de qualifier d'agressif, avec des violations répétées, et ça s'est vu encore aujourd'hui dans les eaux territoriales suédoises, des violations répétées des espaces aériens, des espaces maritimes, de nombreux pays, pas que des pays de l'OTAN, d'ailleurs des pays neutres comme la Finlande, voilà, avec des actions. Donc si vous additionnez à la fois l'effort de réarmement, ce qui vient de se passer en Ukraine, et les systèmes avancés qui déploient à droite et à gauche, tout tout au long de la frontière avec l'Europe, hein, du nord jusqu'au sud. Oui, il y a lieu de se poser des questions. J'ajoute pour finir que la vérité, c'est que parce que nous sommes partis du principe que nous serions perpétuellement en paix avec les Russes, les Européens collectivement ont massivement désarmé. Hein, je peux donner des chiffres, hein, je vais donner un chiffre très simple. Hein, 70% du potentiel de tanks en Europe a disparu en l'espace d'une grosse décennie, par exemple. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la plupart des pays européens sont tout simplement incapables de défendre leur territoire. Il faut le savoir. Ils sont dépendants de leurs grands alliés.
Une courte réaction, Yannick Kéo.
Bon, deux choses. Déjà, je ne parlais pas de déploiement de l'OTAN face à la frontière russe. Je parlais du déploiement spécifique en Géorgie. Ensuite, il est complètement aberrant et faux de dire aujourd'hui que l'Europe désarme. L'Europe s'arme à un rythme moins soutenu que d'autres régions du monde. Mais il n'y a pas de désarmement en Europe. Nous avons des pays alliés qui ont maintenu leur budget d'acquisition globalement depuis 2001. Il y a eu des restrictions temporaires. Il y a des perspectives qui sont plutôt enthousiasmantes. Je vais finir avec une image assez clé quand même. Il y a certains pays alliés de l'Union européenne qui prévoient d'investir dans un avion de 5e génération, le F-35, qui coûte les yeux de la tête. Il a beau coûter les yeux de la tête, il a beau connaître toutes les difficultés techniques et budgétaires aux États-Unis lui-même, il n'y a eu aucune remise en cause de cet achat par les partenaires européens. Pour des pays qui désarment, ils sont en train de se retrouver équipés, ou ils ont le projet de se retrouver équipés d'une arme quand même top technologie.
Réaction très brève, vous avez une étude commanditée par l'AAD, l'Agence européenne de la défense, qui porte sur la période 99-2012, je vous y renvoie, elle a été faite par des Allemands, qui montre que par grande catégorie d'armement, à l'exception des drones et des systèmes de commandement électronique, toutes les catégories ont connu des baisses situées entre 30 et 70%. Cette étude est en ligne, elle est facilement consultable.
Camille Grand.
Je crois que ce qu'il faut regarder quand on regarde ça, il n'y a pas de lien mécanique entre ce que font les autres et ce qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une série de cas de figure où des puissances régionales décident de se doter d'une capacité d'avions de combat modernes ou de sous-marins. Ça ne nous pose pas de problème et ça n'appelle pas de phénomène de course aux armements de notre part. Alors après, il y a dans l'environnement immédiat des situations où il y a des équilibres qui sont modifiés. Alors ça peut être en mer de Chine, ça peut être au Moyen-Orient, ça peut être dans une partie de l'Afrique où les budgets d'armement augmentent très vite puissances sous-régionales africaines. Et donc on est dans un phénomène très diffus, très différent, où on a des situations, des régions où il y a des phénomènes de course aux armements ou de réarmement rapide qui sont liés à des tensions, et d'autres régions où on est dans des phénomènes de modernisation relativement classique, que de même manière qu'ils modernisent leurs infrastructures ferroviaires, ils vont moderniser leur armée.
Mais est-ce que l'ONU, Camille Grand, n'offre pas un cadre justement pour gérer ces déséquilibres-là ou ces nouveaux équilibres ?
Alors là, toute la difficulté, c'est quand on regarde l'agenda du désarmement mondial aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas grand-chose dans cet agenda. On citait le traité sur le commerce des armes, donc l'unique traité qui rentre en vigueur depuis quelques années et qui a pour objet de réguler, on va dire, le commerce des armements et de quelque sorte moraliser un petit peu le commerce des armements.
C'est-à-dire on contrôle à qui on va vendre des armes, quoi.
Exactement.
C'est ça ?
Exactement. Il y a eu quelques avancées dans le domaine du désarmement, on va dire, humanitaire, avec le traité sur les mines antipersonnelles à la fin des années 90 et le traité sur les bombes à sous-munitions à la fin de la décennie 2000. Mais qui sont des avancées, je dirais, humanitaires, mais qui n'ont pas un effet très lourd sur le terrain là-dessus. Ce que je relève dans ce contexte-là, c'est que très souvent, quand même, et ça c'est un sujet de préoccupation, on voit les pays européens spécifiquement, pas forcément occidentaux, s'engager dans ces traités aux côtés d'États du Sud plutôt pauvres et donc de vouloir en quelque sorte utiliser ces mécanismes de régulation internationale, soit des armes inhumaines, soit de moraliser le commerce des armes, alors que les grandes puissances régionales, elles, se tiennent sagement à l'écart de ces processus, je dirais, qui ont un moteur assez moral, oublient ou décident de ne pas ratifier ces traités. Ce qui est le cas pour, par exemple, le traité interdisant les sous-munitions. Grand élan international après la guerre du Liban de 2006, où les Israéliens avaient utilisé ces armes assez massivement. Un peu moins de 10 ans plus tard, il y a un traité. Il y a une centaine de pays signataires, donc on peut dire qu'il y a un début de norme qui s'est établi. Mais en même temps, ces armes restent dans les arsenaux des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de l'Égypte, d'Israël, et du Pakistan, et ainsi de suite.
Est-ce que malgré tout, il n'y en a pas moins ? Alors, même si, s'ils ne sont que quelques-uns à s'engager dans des processus de désarmement, est-ce que ça n'a pas un effet un petit peu de...
En volume, ça a été relativement marginal, mais aujourd'hui, les pays signataires représentent 10 à 15% du stock mondial. Donc, on a un effet de loupe. Alors, il se trouve que, ayant d'ailleurs participé à cette négociation, je trouve que c'était un bon choix et que c'était pas mal d'essayer de moraliser l'emploi d'armes qui avait beaucoup des conséquences lourdes pour les populations civiles. Le chemin qui a été choisi de poser une interdiction de principe n'était pas mauvais, mais on n'a pas réussi à associer les principaux utilisateurs, d'ailleurs pas seulement potentiels, c'est-à-dire des utilisateurs qui les utilisent dans des conflits comme les Russes l'ont fait en Géorgie et en Ukraine, ou comme les Américains l'ont fait régulièrement également.
Bon, donc il y a quand même parfois des moments où ça marche, le désarmement, Yannick Kéo, Étienne de Durand. Yannick Kéo.
Oui, il y a des éléments où ça marche et où on obtient des résultats plutôt positifs.
Camille,
on a parlé récemment. Après, même quand ça ne marche pas, en fait, il y a une vertu dans se lancer dans un processus de négociation, c'est que ça permet d'apaiser certaines tensions. Ça permet de renormaliser ou de normaliser des choses qui ne l'étaient pas.
C'est-à-dire qu'on a un cadre de discussion qui permet quand même...
On relance un cadre de discussion.
Prenons par exemple aujourd'hui les tensions entre les Européens et la Russie. Le fait qu'il y ait un cadre de discussion pour le désarmement, ça permet peut-être d'apaiser un peu des tensions qui n'est...
Ça pourrait permettre. Il n'y a pas d'automaticité dans la chose. C'est une possibilité qu'il faut savoir saisir, qu'il faut savoir créer. Il faut savoir y penser à l'après-crise et aux outils qu'on peut mettre en place pour retrouver ou renouer un dialogue. Et c'est important que même en période de crise ou en post-crise, même de continuer à dialoguer avec ses ennemis, de trouver un terrain d'entente. Et là-dessus, le désarmement représente, ou les négociations autour d'une maîtrise des armements représentent une avenue non négligeable. Ça a déjà marché pendant la guerre froide à plusieurs reprises.
Étienne Durand.
Oui, là encore, je crois qu'il faut distinguer entre le désarmement par rapport aux armes inhumaines et puis les grands équilibres. Sur l'aspect armes inhumaines...
Vous savez que le terme d'armes inhumaines, ça fait toujours un petit peu...
Oui, ben les mines, les choses comme ça, les lance-flammes. Là, je crois qu'il faut faire attention aux effets de loupe et aux effets de mode. Comme l'ont rappelé Camille. Bon, les mines ont été massivement utilisées comme un instrument de contrôle des populations civiles par un certain nombre de mouvements et de guérillas de les années 70, 80, 90. On l'a vu au Mozambique, on l'a vu en Afghanistan. Vous mettez des mines autour d'un village, et comme ça vous assurez que les gens ne peuvent pas sortir, ils sont obligés de vous demander l'autorisation, etc.
Et puis il y a le traité d'Ottawa en 97 qui les interdit.
Oui, mais ça, il se trouve que ces conflits avaient changé. Certains d'entre eux avaient été résolus. Et donc ensuite, en effet, il y a eu un déminage massif qui a été un grand succès, qui a contribué à sauver énormément de civils. C'est incontestable. Mais ce que je veux dire, c'est que si les mêmes dynamiques de conflits se remettaient en place demain au Mozambique ou en Afghanistan, on reverrait l'apparition de ce genre de choses. On reverrait plein de systèmes de piégeage, c'est extrêmement facile à faire. Des explosifs plus un minuteur de micro-ondes, il n'y a pas besoin de plus. Hein. On l'a vu en Irak avec les IED.
Donc il n'y a rien d'irréversible dans le désarmement.
Non, il n'y a rien d'irréversible malheureusement par rapport à ça. Pour ce qui est du désarmement entre grandes puissances cette fois-ci, je suis tout à fait d'accord que ça peut permettre la négociation et la transparence. Mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas les armes qui font la guerre, ce sont les hommes. Donc ça suppose qu'au départ, il y a une volonté politique de négocier. Quand cette volonté n'est pas là, quand certains pays font de l'opacité, je reviens sur ce point parce que c'est vraiment un point central, je pense à l'Iran, je pense à d'autres pays, des pays qui veulent à tout prix avoir la posture la plus opaque possible, c'est absolument pas leur intérêt de s'engager dans une démarche de transparence. En tout cas, bon, ça va peut-être changer avec l'Iran, on espère que la négociation actuelle va bien se passer, mais il faut comprendre que l'opacité, c'est-à-dire le fait par exemple d'avoir des abris souterrains, de dissimuler un certain nombre d'armements et de procédés ou de fabrication sous terre le plus profondément possible, c'est quelque chose qui a été assumé, qui a été construit dans la durée pour justement échapper à l'emprise aux menaces de sanctions, voire même de menaces de frappe occidentales, mais justement aussi pour ne pas rentrer dans cette logique de négociation et de transparence. Donc je le redis, le désarmement, c'est un outil efficace, mais ce n'est pas le désarmement en tant que tel qui fait l'accord ou qui fait la paix. Pour que ça marche, il faut au départ que les gens veuillent se parler un minimum.
Et voilà, donc il faut qu'il y ait des informations qui puissent permettre effectivement de discuter de ces questions.
Il faut qu'il y ait une volonté de discuter minimale au départ.
Alors j'ai vu justement qu'il y avait un outil, il y en a peut-être sans doute plusieurs d'ailleurs, Camille Grand à l'ONU, qui permet de faire remonter des informations, c'est le registre des armes classiques qui a un petit peu plus d'une vingtaine d'années. Donc les États sont censés fournir leurs informations en matière d'importation, d'exportation d'armes, de fabrication. Je vous vois extrêmement dubitatif, c'est-à-dire
C'était à l'époque une initiative intéressante parce que c'était la première initiative qui essayait de créer un peu de transparence sur le marché mondial de l'armement. Donc en soi, ça a répondu, je dirais, à des armements conventionnels. Donc de ce point de vue-là, c'était une initiative qui a été précieuse à l'époque, parce que c'était le premier pied dans la porte de ce sujet des livraisons d'armes, et qui a un objet limité, parce que finalement, les pays remplissent une sorte de registre qui, 2 ans après les livraisons, dit « on a livré 4 chars à tel pays ». Ah bon, bah très bien, et ça ne dit pas grand-chose, et tous les pays ne remplissent pas bien leurs obligations, etc.
C'est un peu comme les déclarations de patrimoine des élus, par exemple.
Ça s'apparenter à ce type de document, en tout cas pour certains. Mais en plus, tout ça a été un processus volontaire, non vérifié, et ainsi de suite. C'est le gap qu'a cherché à combler le traité sur le commerce des armes, en encadrant un peu mieux tout ça, et on verra si ça produit ses fruits. Ce que je crois, c'est que les Nations Unies elles offrent essentiellement une enceinte. Une enceinte légitime pour négocier un certain nombre de choses. C'est dans le cadre des Nations Unies qu'a été négociée la Convention d'interdiction des armes chimiques, par exemple, la Convention de traité d'interdiction des essais nucléaires, pour prendre des succès. De ce point de vue-là, que ce soit la Conférence des armements de Genève, les enceintes new-yorkaises, etc., peuvent être le lieu où se situent les négociations. Ça n'est pas pour autant la mécanique, l'outil ne fait pas le processus. Il faut de la politique. Et effectivement, ce qui est très frappant, c'est de voir que si on regarde les succès en matière de désarmement des 20-30 dernières années, on a les grandes réductions américano-soviétiques puis américano-russes, qui, bon an, mal an, malgré les tensions à certains moments, ont permis de réduire considérablement les arsenaux nucléaires. On avait, mais comme je disais, c'est aujourd'hui très fragilisé, la mécanique européenne, qui consistait sur le continent européen à interdire certaines catégories d'armes, les missiles nucléaires à portée intermédiaire, ou à limiter les armes conventionnelles. Mais pour le reste, les mécaniques régionales sont très rares, voire n'existent pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a aucun forum en Asie qui permette d'avoir de vraies mécaniques de désarmement à l'échelle du continent ou de sous-parties du continent. On n'en a pas au Moyen-Orient. On n'en a pas en Afrique pour prendre des zones de conflit. Ça, c'est une des choses où je pense qu'on regarde avec peut-être un peu de tranquillité le système européen se déconstruire. Mais pendant très longtemps, on a expliqué aux autres, regardez ce qu'on fait, c'est formidable, vous devriez faire la même chose. Aujourd'hui, on va avoir un peu de mal à expliquer aux Israéliens et aux Arabes que ce serait formidable s'ils faisaient des mesures de confiance et de sécurité, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire cette fameuse transparence minimale pour dire quand on fait un exercice ou quand on achète des armes.
Alors, le 24 décembre prochain va donc entrer en vigueur le traité sur le commerce des armes qui avait été signé en avril 2013. Il fallait qu'il y ait 50 pays qui le ratifient. C'est fait depuis un petit mois. Il y a 50 pays, parmi lesquels la France, qui a été un des premiers pays à ratifier ce traité. Yannick Kéo, qu'est-ce que ça change, par exemple, le 25 décembre? Est-ce que la France, pour appliquer ce traité sur le commerce des armes, va arrêter de vendre des armes à certains pays avec lesquels elle fait commerce? J'ai vu que sur le site d'Amnesty, par exemple, on dit que voilà, il ne faut pas que ce traité vise à arrêter la circulation d'armes à destination de pays dès lors qu'on sait que ces armes serviraient à commettre ou à faciliter un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou d'autres atteintes graves aux droits humains, ce qui est assez large. Je prends juste un exemple, par exemple. Est-ce que la France va arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite?
Sur l'interprétation de ce genre de traité-là, il y a loin de la coupe aux lèvres. Mais il y a des cas qui sont un peu plus explicites. Par exemple, on a beaucoup parlé du Mistral récemment. On a une véritable opération militaire menée en Europe. Livrer une arme dans ce cadre-là, ça paraît compliqué au regard de ce traité-là. Ça l'est déjà au regard de la déclaration commune, enfin la position commune dans le cadre de l'Union européenne, même si le caractère impératif de cette disposition communautaire est encore incertain. Je vous dirais qu'il va falloir attendre un petit peu avant de voir si il y a des dents dans ce traité-là ou pas, et quelle est la marge d'interprétation sur certains termes. Par exemple, récemment, on parlait de l'Arabie Saoudite, moi j'avais en tête l'Égypte. La négociation des corvettes Gowin au moment où l'État égyptien s'en va frapper sa population, ça soulevait un certain nombre d'enjeux déjà à l'époque. Pourtant, ça continue d'aller de l'avant.
Il y aura des mesures suffisamment contraignantes et des contrôles suffisamment poussés, Camille Grand, pour que ça permettre vraiment d'obtenir des effets concrets ?
Très probablement, l'effet du traité sur le commerce. La plupart des exportateurs, en tout cas occidentaux d'armes, estiment qu'ils ont une politique très morale et qu'ils ne vendent des armes uniquement dans des situations satisfaisantes au plan politique, stratégique et humanitaire. En pratique, ça va jouer à la marge. Quand on est dans des situations de conflit très brutales, en disant ne livrons pas d'armes à un pays qui est clairement en train de massacrer sa population.
D'un mot, Étienne Durand.
Oui, mais je crois qu'il faut distinguer les systèmes d'armes complexes qu'on utilise pour se faire la guerre entre États et les systèmes d'armes simples, et en particulier les armes légères qu'on utilise pour opprimer sa population. La plupart des pays européens, enfin en tout cas la France, nous on n'exporte pas d'armes légères. Donc, de toute façon, vous n'avez pas besoin de chasseurs-bombardiers ou de véhicules de combat très perfectionnés pour les tirer sur des manifestants. Il suffit de mitrailleuses et de choses comme ça.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir mené cette discussion, même si Yannick Eo n'est pas d'accord avec ce qui nous tiendra lieu de conclusion, évidemment provisoire. L'émission se poursuit comme chaque soir sur internet, franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Demain, nous serons en direct du Parlement européen à Strasbourg, si jamais vous passez dans le coin. Nous nous intéresserons à la composition de la nouvelle Commission européenne qui devrait être investie mercredi si tout se passe comme prévu, ce qui n'est pas encore garanti. Voilà, tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Gomard. Bonsoir Laurent.